à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Nous vous rappelons que ce mois-ci, le thème de nos émissions est consacré au thème de l'éthique. Et comme chaque troisième émission, nous allons porter un regard croisé sur l'éthique. Éthique vue à travers le judaïsme, à travers la Torah, et éthique vue à travers de l'Évangile. Autour de la table, pour débattre de ce sujet, nous retrouvons Georges Boisiz, notre rédacteur. Bonjour Georges.
Bonjour Claire, bonjour à tous.
Je vous rappelle que Georges est membre de la communauté israélite de Cannes. Et Véronique Francou, bonjour Véronique.
Bonjour Claire.
Véronique, qui est catholique, psychologue, et tous deux sont membres fondateurs du Vivre Ensemble à Cannes. Donc aujourd'hui, pour commencer, je crois que Georges, vous vouliez nous parler des 10 commandements, ou plutôt des 10 paroles.
Oui, alors pour moi c'est quelque chose de très important, parce que c'est ce qui a été révélé au peuple juif sur le mont Sinaï. Donc je me sens tout particulièrement concerné par ces 10 paroles, comme on dit. Aseret Diberot. Alors, je voudrais parler de l'éthique au niveau de ces 10 paroles. Je vais simplifier, on va dire 10 commandements. En fait, il y a, comme vous le savez, 2 tables de la loi sur lesquelles sont gravés 5 commandements sur une table et 5 commandements sur l'autre. Ça correspond à 2 formes de l'éthique du judaïsme. En particulier, nous avons une éthique vis-à-vis de Dieu. Ça correspond aux 5 commandements, les premiers commandements. Et les 5 suivants, c'est l'éthique vis-à-vis des hommes. Alors pour illustrer ceci, je pense que le plus simple, c'est que je fasse un rappel très bref de ces commandements. Premier commandement, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclaves. Deuxième commandement, que je vais volontairement restreindre, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne te feras point d'idole, ni toute image de ce qui est en haut, dans le ciel ou en bas sur la terre ou dans les eaux, au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point, etc. Troisième commandement, tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laisse point impuni celui qui invoque son nom en vain. Quatrième commandement, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Durant 6 jours tu travailleras, tu auras fait tout ton travail, et le 7e jour, c'est le Shabbat de l'Éternel pour ton Dieu, de l'Éternel ton Dieu. Pour l'Éternel ton Dieu, excusez-moi. Tu ne feras aucun travail, toi et ton fils et ta fille, ton esclave mâle ou femelle, ton bétail et l'étranger qui est dans tes murs. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Alors ça, ce sont les 4 premiers commandements. Nous avons le 5e commandement, donc qui concerne plus précisément le respect des parents. Et en hébreu, c'est la crainte des parents, parce que le respect implique la crainte aussi, comme vis-à-vis de Dieu. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu t'accordera. 6e commandement, tu ne commettras pas d'homicide. 7e, tu ne commettras pas d'adultère. 8e, tu ne voleras pas. 9e, ne rends point contre ton prochain un faux témoignage. Et 10e commandement, enfin, ne convoite pas la maison de ton prochain, ne convoite pas la femme de ton prochain, son esclave, ni sa servante, son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Alors là, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans ces tables de la loi, parce que ça nous montre une éthique qui concerne non seulement aussi les rapports entre les hommes, mais aussi même les rapports avec les animaux. Ça va plus loin, puisque on doit accorder le repos aussi au bétail.
Et à la terre.
Et à la terre. En hébreu, ça s'appelle le jubilé, on va dire, pour simplifier. Il y a un nom spécifique qui s'appelle la Shemitah. Bon, le jubilé qui a lieu tous les 7 ans. Et au bout de cette période de 7 ans, on a le grand jubilé. Et j'allais dire, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que le grand jubilé, chacun retrouve ses possessions, la propriété de sa terre originale. Parce que pour les Juifs, en particulier pour les Hébreux, on va dire tout simplement, ce qui comptait, c'était les 12 tribus. Donc chacun avait eu un lot qui lui était attribué par tirage au sort, mais aussi en fonction de l'importance numérique de l'attribut. Voilà, donc ce que je voulais dire, ça, c'est qu'il y a cet aspect aussi de ne pas convoiter. Pourquoi vouloir à tout prix ? C'est encore ce désir de possession vis-à-vis des autres ou de l'autre. Si on parle d'adultère, pourquoi ne pas commettre l'adultère ? Ben, tout simplement parce que c'est la femme de ton prochain. Qu'est-ce que tu as à faire avec elle ? Si le bon Dieu t'a donné la chance d'avoir une femme et des enfants, eh ben, reste centré sur ta famille. Voilà quelques idées. Donc tout ça, c'est très profond. Il faut rappeler que les 10 commandements reprennent les lois qui avaient été données à toute la terre du temps de Noé, qui étaient les 7 lois de Noé, que je ne vais pas énumérer ici, mais qui sont reprises en partie par ces 10 commandements.
Merci Georges. Véronique, vous voulez intervenir ?
Oui, alors moi je voulais dire que dans l'évangile, Jésus reprend finalement toute cette loi et la loi et les prophètes quand on lui demande quel est le plus grand commandement. Et Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Et il rajoute, voilà là toute la loi et les prophètes. Autrement dit, Jésus est complètement juif quand il dit tout cela. Il est complètement conforme à la Torah. Et il dit d'ailleurs qu'il n'abolit rien, pas un iota de la loi ni des prophètes. Il vient simplement, ça c'est ce que nous croyons nous chrétiens, c'est là un petit peu notre divergence avec nos frères juifs, c'est que nous croyons que Jésus a appliqué complètement la Torah et qu'il a dans cet amour de l'autre et cet amour de Dieu. Une autre chose qui est très importante, c'est que, et ça c'est aussi conforme à la Torah, il n'y a pas d'amour de Dieu sans amour de l'autre. Et il n'y a pas d'amour de l'autre sans être déjà dans un amour de l'Éternel, puisque Saint Jean nous dit, quand nous aimons l'autre, nous sommes nés de Dieu, puisque Dieu est amour. Donc cette loi d'amour réunit finalement, comme dans le Cantique des Cantiques, à la fois amour de Dieu et amour de l'autre. Et enfin, si Georges me permet, une dernière observation par rapport à ce que vous disiez, Georges, tout à l'heure. Dans la loi qui est donnée à Moïse, Dieu se présente au peuple d'Israël d'abord comme le libérateur. C'est celui qui fait sortir le pays, son pays d'Égypte et qui fait échapper le peuple hébreu finalement à ses ennemis. Et j'avais envie de dire que finalement le plus grand ennemi c'est nous-mêmes. Je crois que le plus grand ennemi que nous ayons à combattre c'est en nous-mêmes. Et je crois que là aussi dans l'éthique et dans ce que nous cherchons à vivre dans le vivre ensemble à Cannes, eh bien nous sommes ramenés à ça, nous sommes ramenés à tout ce cheminement, à tout ce travail sur dépasser notre propre ennemi intérieur.
Vous écoutez RCF sur la croisette sur 96.8.
Véronique nous a beaucoup parlé de l'amour. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, Georges ?
Alors moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Véronique. Parce qu'elle a montré que donc pour les chrétiens, Jésus est l'exemple à suivre. Pour le judaïsme, il n'y a pas d'exemple. Il y a des commandements. C'est-à-dire qu'en fait, Moïse, même si ça a été le plus humble des prophètes, celui qui a été le plus proche de Dieu, puisqu'il s'est approché sans le voir de près, sinon il serait mort. Donc Dieu lui a dit, tu ne pourras pas voir ma face, mais tu ne me verras pas derrière. Ce que je veux dire, en fait, c'est que donc, le judaïsme, en fait, c'est la Torah. La Torah, ça veut dire l'enseignement, et donc c'est l'enseignement divin. La Torah, nous rappelons une chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que quand on parle de Torah, ce n'est pas seulement la Torah écrite, les 5 livres qui composent la Torah écrite. Pour le judaïsme, la Torah, c'est à la fois la Torah écrite et la Torah orale que Dieu a livrée à Moïse. Cette Torah orale, ensuite, a été transmise de génération en génération, et des grands sages du Talmud ont, entre le début de l'ère chrétienne, on va dire, et le 5e siècle, ont mis en forme cette Torah orale, et ça s'est appelé après le Talmud. Talmud qui comprend les premiers rédacteurs sous forme de Mishnah, et ensuite ceux qui ont terminé, c'est pour ça qu'on appelle ça la Gemara, ça veut dire terminé cette étude talmudique, et qui ont fait ce volume. J'ai l'habitude de dire que pour étudier le Talmud, il faut à peu près 7 ans et demi en étudiant une page par jour. C'est-à-dire la densité, la richesse du Talmud lui-même. Voilà, donc premièrement, donc c'était ça, c'est de montrer qu'il n'y a pas de modèle à suivre, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'exemple humain, comme dans le bouddhisme, où nous avons l'exemple de Bouddha, dans le christianisme, l'exemple de Jésus. Deuxièmement, au niveau de l'amour, je rejoins beaucoup tout à fait Véronique quand elle dit « aimer l'autre, c'est aimer Dieu », bien sûr. Alors l'expression « tu aimeras ton prochain », « aime ton prochain comme toi-même ». Je vais citer exactement le Lévitique 19-18. Alors c'est dans un contexte et après nous réfléchirons là-dessus. « Ne te venge ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel ». Alors souvent dans les commandements de Dieu, il y a « je suis l'Éternel ». C'est-à-dire en fait il y a déjà cette notion de respect, de crainte. Observer, pourquoi ? Parce que ben, Dieu est tout-puissant, c'est Dieu créateur, créateur de l'univers, créateur de tout ce qui existe. Donc, il y a ce respect, cette crainte qu'on doit... Alors, je voudrais faire le parallèle entre l'amour que nous devons vis-à-vis de Dieu et d'autre côté, la crainte de l'Éternel. Je cite l'Ecclésiaste pour ceci, l'Ecclésiaste 12, 15, 16, « Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme ». Voilà, donc pour les Juifs, la Torah, c'est parole de vérité. Ça, pourquoi ? Parce qu'elle est la parole divine.
À propos de la crainte de Dieu, effectivement, je rejoins tout à fait Georges, puisque craindre Dieu, c'est être aussi émerveillé devant l'immensité de Dieu créateur. Et je voulais simplement dire que la crainte de Dieu, ça n'est pas la peur. La crainte de Dieu, ça n'est pas la peur. C'est simplement... prendre conscience de cette immensité, cette transcendance qui est très chère à nos frères juifs, cette transcendance, cette immensité, cette beauté, cette intelligence parfaite de Dieu. Et donc, en face de cette immensité, eh bien, on a cette crainte qui est une sorte d'émerveillement finalement, et une sorte de réalisation que, voilà, nous sommes bien tout petits.
Bon, alors effectivement, la crainte de Dieu, bon, il est évident que Dieu est bienveillant vis-à-vis de ses créatures, c'est sa bonté quand même. Mais enfin, il y a quand même des moments où il peut exercer son châtiment. Et nous avons vu, par exemple, Corée qui a voulu prendre la place de Moïse et de Aaron, le Cohen, et qui voulait faire une offrande. Qui n'était pas en son temps, il a été englouti. La terre s'est ouverte et englouti Corée et tous ses fidèles. Voilà, donc ça c'était juste pour indiquer que finalement l'humain est tellement fragile qu'il a son ego qui est très fort. On n'a pas parlé de l'ego humain. L'ego, il est là le problème. C'est que l'ego, ça veut dire qu'on s'est centré sur soi-même et on ne pense pas à l'autre. Et toute la religion, c'est finalement relier les hommes, les gens entre eux, dans le sens du bien. Faire attention aux pauvres, aux nécessiteux, à l'orphelin, etc.
Oui, je voulais simplement rajouter que par rapport à l'éthique, ce que nous dit saint Paul, c'est que ce n'est pas forcément les actions qui sont importantes, ce sont les intentions aussi. Par rapport à l'action, on peut avoir des actions, par exemple, de générosité qui cachent, en fait, cet ego et un besoin de reconnaissance, par exemple, ou de briller devant les autres. Ou voilà. Et ça aussi, je pense que ça fait partie d'un cheminement sur nous dont parle Georges.
Vraiment un grand merci Véronique, un grand merci Georges. Moi, ce que je retiens de cette émission aussi, ce qui est commun qu'on retrouve aussi bien dans la Torah que dans l'Évangile, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Donc c'est vraiment un beau programme. Donc je vous rappelle que cette émission sera rediffusée vendredi soir et samedi matin. Nous vous invitons souvent à des réunions Vivre Ensemble. La prochaine, je vous invite le 8 et 9 mars aux premières rencontres du Soufisme du Cœur. Pour obtenir toutes les informations, vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.vivreensembleacannes.org. En attendant, continuez à nous rejoindre sur Facebook Vivre Ensemble à Cannes. Un grand merci à chacun de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.